en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Faut-il faire confiance aux historiens ? C'est le thème de travail principal de l'Académie des sciences morales et politiques, décliné en cette année 2005, tous les lundis à 15h, à travers une séance publique. Un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication. Et le lundi 17 janvier 2005, c'est Monsieur Xavier Darcos qui était l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie auprès du ministre des Affaires étrangères, Xavier Darcos, pour cette communication intitulée « Mérimée historien ».
Vous le savez, Mérimée fut d'abord un homme de raison dans un temps de ferveur. Il est né en 1830 et très rapidement il s'est fait un nom sous la Restauration, dans un monde de lettres en pleine mouvance romantique, dont il n'a jamais été très dupe d'ailleurs. Ce n'était pas un adepte de l'emphase, ce n'était pas un adepte non plus du renouveau religieux, puisqu'il était athée, et il se méfiait beaucoup de la grandiloquence des poètes, même la prolixité sentimentale et affective et lyrique, voire populiste, dont Hugo précisément lui semblait le sommet du ridicule. Il préférait un style laconique, un style de conteur, un style cruel, volontiers ironique. Et peut-être que cet attrait pour le véridique, cette méfiance vis-à-vis du pathos, le destinait dans une certaine mesure à une écriture de la vérité, donc à l'historiographie. Il faut dire aussi que ces idées un peu raisonneuses ont cessé de paraître suspectes à partir de la monarchie de Juillet, et période dans laquelle Mérimée a pu commencer une carrière brillante, comme vous le savez, puisque dès 1834, c'est-à-dire à 31 ans, il fut nommé inspecteur général des monuments historiques et qu'il a pu ainsi faire s'épanouir une passion atavique pour les beaux-arts. Je rappelle que son père, Léonore, deuxième Grand Prix de Rome, était un professeur de peinture respecté et surtout son goût pour l'archéologie, son goût des voyages. Malgré ses jérémiades sur l'inconfort de ses déplacements, malgré ses saillies sur la sottise des provinciaux, Mérimée a beaucoup aimé son métier de voyageur savant et il a utilisé ses rapports volumineux. L'œuvre de Mérimée est considérable pour en tirer des récits de voyage, mais aussi pour nourrir ses travaux historiques. À tel point d'ailleurs que Mérimée fut élu en 1843 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, monsieur Leclan, puis en 1844 à l'Académie française, où il succéda à Charles Nodier, dont il dut dire du bien, et après bien des intrigues pour faire oublier sa réputation de libre penseur, ce qui n'était pas à l'époque la meilleure façon de devenir académicien. En tous les cas, Mérimée était un historien prédestiné. Ses parents étaient des libres penseurs, ils aimaient la philosophie, les idées, l'histoire. Et son père, bien qu'il fût professeur de peinture, aimait surtout le milieu des historiens d'art. Et toute sa vie, Mérimée fréquenta des gens comme Victor Cousin, comme Augustin Thierry, comme Edgar Quinet, comme Elifor. Et au lycée Napoléon, lorsqu'il était élève, il s'est imposé très tôt comme un spécialiste des humanités classiques et en particulier de l'histoire antique. Peut-être que cet intérêt pour l'histoire venait aussi du fait que son père considérait que l'esthétique classique, qui était généralement illustratrice de scènes historiques, était la seule qui convenait et que toutes les autres formes de peinture ou de musique étaient en soi décadentes. Il dit lui-même que très tôt, il a lu les auteurs antiques avec une sorte de frénésie, je cite, chose de plus en plus rare de nos jours, vous l'avouerez, et il se jette par ailleurs éperdument dans les biographies, celles de Cartouche, celles de Mondrin, et il parle de son imagination qui s'envola, dit-il, au fil des récits historiques de Montluc, pourtant récits souvent sévères, c'était un homme cruel que Montluc, ou, on le comprend mieux, de Brantôme, qui était tout de même un peu plus coquin. Il adora à jamais ces personnages hauts en couleur, il adora les intrigues inquiétantes, il adora les bandits dont il fit souvent des héros, et bref, il adora les personnages hors du commun, et la plupart de ses livres d'histoire s'en souviendront. Il est vrai aussi que Mérimée, en son temps, s'inscrit dans un climat général. Vous savez la fameuse phrase de Chateaubriand, Monsieur le Président, qui en 1831 disait « Tout prend aujourd'hui la forme de l'histoire, polémique, théâtre, poésie, roman », comme s'il s'agissait d'exalter, face au poids du passé et du destin, un moi qui cherche le sens des événements, le sens du destin précisément. Et cet engouement a provoqué un genre nouveau, le drame, qui cherchait à mêler la littérature et l'histoire. Et évidemment, c'est par là que Mérimée a commencé, à la suite de l'impraticable Cromwell de Hugo, ou de l'assez problématique Lorenzaccio de Mutzet. Il a lui aussi tenté, et c'est sa première œuvre d'ailleurs que nous connaissions, un indigeste drame, un Cromwell, que ses amis l'ont empressé d'inviter à oublier. C'est une pièce assez confuse, assez bavarde, mais il n'empêche, on voit d'emblée que Mérimée installe son œuvre littéraire dans cette tradition de l'histoire. Il n'est d'ailleurs pas découragé par la critique que reçoit son Cromwell, puisque 4 ans plus tard, il achève un autre poème en prose, qui est traité sur un mode plus humoristique, et d'ailleurs inspiré de Byron, intitulé « La bataille ». Il s'agit de retracer un moment, un temps fort de la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, en 1812, et on le voit donc Mérimée d'emblée chercher, je le répète, ses sujets dans l'histoire. Mais enfin, le premier grand livre d'histoire à proprement parler, qui nous permettra de voir comment Mérimée conçoit l'histoire, c'est 1572, Chronique du temps de Charles IX. C'est donc la fin des apprentissages. Ce livre paraît en 1829, reçoit un accueil favorable, beaucoup plus reconnu, une audience assez large. Mais nous retrouvons évidemment les directions premières de Mérimée dans ce texte, puisque nous retrouvons les chroniques de Montluc, évidemment. Mérimée s'est plongé dans les récits de l'Étoile, il s'est plongé dans Daubigné, et il essaie de recréer un climat, le climat d'une époque, celui des guerres civiles, celui des guerres religieuses. Chez ces chroniqueurs, qu'ils soient catholiques ou réformés, il découvre beaucoup de portraits féroces d'ailleurs ou d'anecdotes, en particulier chez Daubigné, qui était un satirique, qui émaille son récit. Du coup, il va même jusqu'à fabriquer un certain nombre de personnages, comme par exemple une Diane de Turgis, qu'il invente à partir d'une ode de l'Étoile. C'est aussi pour la raison pour laquelle il se met à imiter le style des chroniqueurs de cette époque. Je cite, pour vous donner le ton de ce livre historique, une phrase qui vous montrera ce style. « La demoiselle de Châteauneuf, l'une des mignonnes du roi avant qu'il n'allât en Pologne, s'étant mariée par amourette avec Antonetti, Florentin, commit des galères à Marseille, et l'ayant trouvé paillardant, le tua virilement de ses propres mains. » Mérimée, on s'en doute, adopte malgré ce style le point de vue des protestants à l'égard des crédulités catholiques, comme il dit. Il ne se départit jamais d'ironie, même d'acidité. Et, par exemple, il s'attarde sur des scènes de nature à détourner le sens religieux des choses. Je pense en particulier à une scène très drôle et narrée sur un ton voltairien où l'on voit deux confesseurs se disputant l'âme d'un mourant à l'hôpital. Il n'empêche que, malgré ces caricatures, malgré ce style, Mérimée confirme et affirme sa méthode. Sa méthode est fondée sur une approche réaliste. Il fait court. Les personnages sont marqués par des traits étonnants, souvent abjects, il faut bien le dire, sans trop de descriptions. Il cherche à stupéfier son lecteur, par exemple en le plongeant d'emblée dans des scènes horribles ou incompréhensibles. Je pense à la Saint-Barthélemy, qui est racontée avec une complaisance atroce et avec une précision inouïe. Le sadisme des tueurs, le regard des mourants, le sang qui poisse partout, la mort qui frappe sans raison. La vérité de Mérimée est cruelle, car l'auteur cherche à faire impression. Mais le mélange des genres permet d'éviter le lugubre ou l'horreur. Mérimée sait changer de ton, recréer une vie populaire. Il aime les dialogues truculents, les situations drôlatiques. Et d'ailleurs, il n'adhère pas toujours à ce qu'il écrit. Il juge son œuvre avec une pudeur distante. Il dit « Au fond, c'est un méchant roman, dit-il de son œuvre historique, qui m'ennuie. » Et il essaie de relativiser son investissement personnel, comme pour minimiser son goût pour des histoires bizarres où il semble se complaire. Et certains lecteurs de son temps, qui étaient habitués à des trames romanesques, s'avouent très décontenancés devant ces promenades guidées, qui répondent pourtant au principe même des chroniques. Et ils reprendront le même reproche lorsque Mérimée publiera La Jacquerie, qui est un autre récit sous forme de succession d'épisodes, bizarres d'ailleurs, sans cohésion entre elles. À partir de 1828, après cette première réussite, car je le répète, la chronique eut un succès de librairie, fut un premier succès de librairie, Mérimée se rapproche des romantiques dont il se moquait naguère, en particulier de Victor Hugo, qui l'admet dans ses intimes, au point qu'on a une scène très célèbre où l'on voit Mérimée en train de concocter des macaronis à l'italienne pour Victor Hugo dans sa propre maison. Il met en relation aussi Stendhal, son ami, et Hugo, qui, comme vous le savez, se détestaient, et tout en cependant se méfiant du style historique des romantiques. Par exemple, il parle de Handisland, et il dit « c'est le plus baroque et le plus horrifique produit d'une imagination déréglée qui eût jamais glacé le sang et blémi le teint de lecteurs de romans », alors que Victor Hugo, parlant du « Le Rouge et le Noir », dit « c'est un roman écrit en patois ». Aux yeux de ses contemporains, Mérimée, cependant, fait figure d'un intellectuel intéressé par le renouveau historique. Il est lié aux amateurs de peinture, je l'ai dit, aux grands auteurs d'images historiques. Il connaît Delacroix, il connaît David. Il fréquente l'historien spécialiste de la Révolution, Auguste Minier. Il est un ami d'Augustin Thierry, le spécialiste des Francs et des Mérovingiens notamment. Il fréquente Edgar Quinet, qui est lui aussi un adversaire et un historien du cléricalisme. Il est lié à Louis-Adolphe Thiers. Et puis aussi, surtout, le philosophe et historien Victor Cousin, disciple de Hegel, qui fut ministre de l'Instruction publique en 1840, ainsi que Jean-Jacques Ampère, le fils du physicien Ampère, qui était un spécialiste de l'histoire littéraire et qui fut professeur au Collège de France à partir de 1833 et bien d'autres. Pour dire que Mérimée vivait dans un milieu qui était celui, au fond, des historiens. Toutefois, la façon de penser le passé chez Victor Hugo, chez Mérimée, pardon, n'est pas celle de Victor Hugo. Il est saisi par le climat général, par la volonté de s'intéresser à l'histoire, mais l'esprit qui domine à ce moment-là, qui est de donner du sens précisément à l'histoire, d'en discerner les lois, de trouver des déterminismes, de comprendre à travers le passé ce que peuvent être l'avenir des hommes, l'esprit du peuple, le progrès, la conquête de la liberté, toutes sortes de manières d'aborder l'histoire qui doivent beaucoup à Hegel, c'est pour l'instant encore un milieu étrange à l'approche mériméenne. Augustin Thierry ou François Guizot traquent dans l'étude du passé une légitimation de leur gestion politique. Michelet impose, et pour longtemps, une vision républicaine de l'histoire de France. Mérimée ne fait rien de tel. C'est un sceptique, c'est un pragmatique, un descriptif. Et lorsqu'il collecte des faits, lorsqu'il révèle des aventures, il en souligne plutôt les incongruités que les cohérences. Ainsi a-t-il pu trouver sa propre approche de l'histoire, grâce à ce qui fut désormais la grande affaire de sa vie, la sauvegarde des moments historiques, plutôt que de s'inscrire dans le regain historique général. Lorsque Mérimée traverse la France, il cherche cependant, et là il rejoint le climat général, il cherche cependant à chercher dans le passé, dans les vestiges, dans les monuments, ce qui justifie ou ce qui pourrait ressourcer une identité française. Il s'agit pour lui, comme pour tous, de présenter la Révolution comme un aléa dans la marche du temps, de restaurer une continuité qui englobe cet accident historique. Guizot disait, je cite, « J'avais à cœur de ramener parmi nous un sentiment de justice et de sympathie envers nos anciens souvenirs, envers cette ancienne société française qui a laborieusement et glorieusement vécu pendant 15 siècles pour amasser cet héritage de civilisation que nous avons recueilli. C'est un désordre grave et un grand affaiblissement que l'oubli et le dédain du passé. Mais ce travail colossal, voulu par Guizot, ne remplacera jamais les antiques volumes des précieuses archives, à jamais détruites ou consumées sous la terreur, celles du monastère de Clairvaux, qui ont été vendues au poids, les chefs-d'œuvre des bénédictins de Cluny, qui servent de jeu pour des enfants. La sotte indifférence de la Restauration prolonge les dégâts révolutionnaires. Clairvaux, par exemple, est transformé en prison et Cluny détruit. Le bilan révolutionnaire est lourd et Mérimée découvre que sur les 300 églises qui pointaient leurs clochers dans la capitale au XVIe siècle, il n'en reste plus que 87 en 1800, que les couvents et abbayes sont rasés, que les tombeaux sont profanés. Il faut donc que les consciences s'éveillent. Et malgré son scepticisme, malgré son refus d'être dans la mouvance romantique, eh bien Mérimée est gagné quand même par cette guerre aux démolisseurs, pour citer Victor Hugo. En réalité, Mérimée comme Hugo vole au secours de la victoire, puisque le législateur est à l'œuvre. Guizot, le 30 novembre 1830, a créé le poste d'inspecteur des monuments historiques, poste que Mérimée occupe après Vité en 1934. Et tout le monde, à sa manière, tout le monde à sa place, Mérimée comme les autres, va désormais s'employer à reconstruire le passé architectural. D'emblée, Mérimée, en amateur d'histoire, s'émerveille. Les lieux excitent son imagination. Sa pensée, face aux ruines qu'il contemple, recrée les événements qui ont animé les lieux. En lecteur de Jules Michelet, qui publie entre 1833 et 1844 son Histoire de France, la résurrection de la vie intégrale, Mérimée veut que les monuments suggèrent et recréent la vie passée. Il compare, il romance, il extrapole. Mais ses recherches des secrets révélés par les sites se heurtent sans cesse à une administration bornée et conservatrice. Ainsi, en Avignon, dit-il, il doit se battre pour obtenir le déménagement de 40 chasseurs d'Afrique installés dans l'église du Palais des Papes, laquelle leur sert de dortoir. Partout, il craint ou constate des dégradations, des négligences. Et face à l'incurie française, il cite les Italiens, il relate l'assaut culturel entrepris par les Italiens en 1816-1817. Les soldats, en qualité d'Italiens, avec un goût des belles choses et savaient les exploiter, dit-il. Les Français auraient balafré les seins, leur auraient mis des moustaches, les Corses les auraient même vendus. Tout en déplorant ces pratiques, ces trafics, on voit bien Mérimée, excusez-moi pour les Corses, tout en déplorant ces trafics, Mérimée, je le répète, reste fasciné par ce passé qu'il a à recréer. Et on a un Mérimée ambigu et double, à la fois sceptique, résistant au tempérament romantique de l'époque, mais qui en même temps tombe sous le charme des ruines qu'il a à reconstruire. À Aix, par exemple, il s'immobilise devant une représentation de Sainte-Catherine par Nicolas Froment dans un triptyque du Buisson Ardent. Il dit « Je ne connais pas de type plus beau de cette pureté majestueuse » que notre imagination donne aux saintes, contre ce que Mérimée et athée, évidemment, ces phrases prennent du sel. Cependant, il fallait que Mérimée fût pris au sérieux, c'était son souhait, et il entreprit dès lors, à partir de 1840, dans la dernière partie des années 1830, des travaux qui pouvaient prendre un caractère plus académique, plus universitaire, pour être reconnus comme tels. Je ne peux citer tous les grands textes historiques de Mérimée, je voudrais donner au moins un exemple de cette volonté de faire sérieux, si je puis dire, cette volonté académique, qui est son travail sur Jules César. Là, encore une fois, ce sont les ruines, ce sont les lieux qui ont inspiré à Mérimée son écriture. C'est à Gergovie qu'il découvre l'intérêt pour la question de Jules César. Il y fait un examen topographique. Il se demande comment des soldats cuirassés, ayant au bras un bouclier de 4 pieds, pouvaient monter en courant une pente si raide. Il y ajoute des commentaires lapidaires. Par exemple, rien n'était impossible aux soldats conduits par César. Et petit à petit, à force de remarques lapidaires ainsi, il se met à s'intéresser à César lui-même. Et il s'enthousiasme pour la vie de Jules César. Il écrit à son ami Riquillien en 1938 « Je travaille en ce moment, ceci internos, à quelque chose de plus sérieux que mes anciennes fredaines. Cela est pourtant bien rococo. Avez-vous entendu parler d'un nommé Jules César, lequel fut mourir à Rome l'an de grâce moins 44 ? Il avait du mérite en son genre, bataillait très bien, volait mieux, faisait l'amour sans préjugé avec les deux sexes. J'écris la vie de ce drôle-là, le plus grand capitaine de tous les siècles, puisqu'il n'a jamais été battu, le plus intrépide paillard, grand orateur, bon historien, si joli garçon que les rois s'y trompaient et le prenaient pour une femme, qui a fait cocu tous les grands hommes de son temps, qui a changé la constitution politique et sociale de son pays, qui, 30 000 qui. Son intérêt pour ce personnage va cependant tourner à l'historiographie générale, puisque longtemps, Jules César l'accompagnera jusqu'à ce que l'empereur veuille s'en saisir et publie, lui, sous son nom de Napoléon III, les livres sur Jules César écrits par Mérimée. Mais, entre-temps, quelques textes sont écrits qui permettent de compléter l'étude complète de Jules César, son essai sur la guerre sociale en 1841, la conjuration de Catilina en 1844. Mais, je le répète, ce sont des livres qui se construisent les uns après les autres et qui finissent d'ailleurs lui-même par l'enlacer. Mérimée dit ceci, « Je lis des bouquins latins, j'en épelle des grecs, j'avale une poussière infernale à secouer des livres que depuis Sommès on n'avait jamais touchés. Vous seriez peut-être curieux de savoir quel grand dessin peut me venir en tête. Je n'ai rien de caché pour vous. Croyez, je veux la ville de Jules César en entier. Je voudrais qu'elle soit passionnante à lire, ce qui est difficile, mais ce qui sera fait. » L'approche mériméenne, d'ailleurs, de l'époque césarienne, à travers ses divers livres, est intéressante parce qu'au fond, elle est assez moderne, elle est assez sociologique. Ce que cherche à comprendre Mérimée à travers César, c'est comment il a pu venir au pouvoir, comment la guerre sociale prépare sa montée vers le pouvoir absolu, d'où un très très long passage sur l'affaire Catilina. Voici pourquoi d'ailleurs son essai sur la guerre sociale avait préparé son étude sur César. Mérimée y développe le sens de la méthode, un génie de la composition, la volonté d'informer, en comprenant les événements dans leur germe, dans leur mobile, et il présente un découpage en 4 chapitres très clairs, les prémices de la discorde civile, les conflits sociaux entre les peuples et les patresses, la guerre entre Marius et Sylla, ses conséquences et César. Mérimée, pour ce travail, ne se contente pas des documents antiques. Il utilise aussi les écrivains de son temps, car il veut être reconnu par les sociétés savantes et pas seulement plaire au grand public. Mérimée cherche à être de ceux qui sont les historiens de son temps. Il s'inspire des historiens latins qu'il admire, comme Tacite, on le comprend. Il adopte beaucoup de sa méthode de rigueur et d'objectivité vaguement ironique, mais cette vérité suppose beaucoup de recul, dont il manque parfois, car Mérimée ne peut jamais s'empêcher d'établir une complicité entre lui et son lecteur. Sainte-Beuve, à l'apparition de l'essai sur la guerre sociale, établit des comparaisons flatteuses. Il dit « Dans la dernière vue de Sylla, abdiquant et mourant, il y a un coin de perspective à travers Lord Byron. Quoi qu'il en soit, cette fin éloquente et majestueuse de ton aspire dignement à rejoindre le dialogue de Montesquieu. » L'abondance en moi, on peut penser aussi à Michelet, car Mérimée excelle à ressusciter la vie, à souligner les drames de l'humanité emportés par les tourments de l'histoire, à magnifier l'horreur des guerres civiles ou de la décadence. Il sait évoquer les misères, les meurtres, le luxe et la luxure, la ruine ou la barbarie. L'histoire est frémissante d'anecdotes. Elle semble mue par des ressorts psychologiques aléatoires ou triviaux, autant que par le déterminisme des grands événements. Ainsi, le raisonneur Mérimée a été gagné par la passion des sites et des ruines et par le désir de l'histoire ressuscitée. On le voit aussi dans les relations qu'il établit entre son écriture de conteur et son métier de chercheur et d'inspecteur des monuments historiques. Ce sont les pierres vives qui donnent du souffle à son inspiration cruelle, pensant à la Vénus d'Île, par exemple. Dans la solitude de ses rencontres avec les éléments, où se fondent la légende et l'histoire, sa sensibilité affleure, sa volonté de faire renaître le passé se dessine. Et il en vient même à imiter un style de Chateaubriand. Je pense à sa première rencontre avec Vézelay, le soir, je cite, « Le soleil se levait, sur le vallon régnait encore un épais brouillard percé çà et là par les cimes des arbres. Au-dessus apparaissait la ville comme une pyramide resplendissante de lumière. Par intervalles, le vent traçait de longues trouées au milieu des vapeurs et donnait lieu à mille accidents de lumière, tels que les paysagistes anglais en inventent avec tant de bonheur. Le spectacle était magnifique. » Ainsi, Mérimée, émerveillé, se laisse aller à un peu plus de liberté. On le voit gagnant au pas de son cheval la baie de Paimpol, annoncée par les ruines de l'abbaye de Beauport, et il dit « C'est en vérité un lieu admirable. J'avais de la peine à détacher mes regards de cette mer blanchissante d'écume, d'où sortent çà et là des têtes verdâtres, d'une multitude de rochers aux formes fantasmatiques. Ce coin de terre semble exceptionnel. J'y voyais avec surprise prospérer les arbres du milieu de la France. Oubliant leur soleil natal, des myrtes, des mûriers, des figuiers gigantesques couvraient la plage, laissant presque tomber leurs fruits dans les flots. Un peu plus loin, dans son voyage à l'ouest, il s'adapte sur Beauport. J'ai souvent eu l'occasion d'admirer la situation singulièrement pittoresque de nos vieilles abbayes, et bien que variées à l'infini, leurs sites ont entre eux un tel rapport de beauté qu'il est impossible de ne pas croire que leurs premiers habitants ont éprouvé à leur aspect les mêmes sensations que nous éprouvons aujourd'hui. Seuls les sites quasi mythiques ou d'impressionnants spectacles naturels peuvent l'arracher à sa tristesse, ce qu'il appelle, je cite, ses encorneufistibulations, mot de son invention qui lui sert à dénoncer chez les autres tout pathos ou tout envol émotionnel. Il se met à écrire comme Hugo, dont il se moquait naguère et dont il trouvait l'emphase grotesque. Un dernier exemple, pour en venir ensuite à notre aspect, sa fameuse tournée en 1839 en Corse, qui nous vaudra notamment Colomba et l'impressionnant Matteo Falcone. Mérimée embarque à Bastia avec Stendhal, qu'il rejoindra ensuite, et tous les deux, pendant 13 jours, ils iront visiter les splendeurs de Rome. Là, on les voit tous les deux éperdus de bonheur devant ces sites, devant ces lieux, notamment à Naples, puis à Herculanum, puis à Pompéi. Ces tournées et ces voyages suscitent chez Mérimée une passion pour l'histoire incarnée. De même que le conteur aime à faire surgir des sites qui croisent les héros fictifs qui en sont l'émanation ou l'avatar, de même l'historien trouve dans les monuments de quoi exciter son désir de connaître et de ressusciter. Mérimée, je le répète cependant, reste soucieux de sa réputation face, comme on dit aujourd'hui, au savoir savant. Quels sont les autres sujets qu'il prie à part Jules César? Regardons par exemple son étrange travail sur l'époque médiévale à travers son gros livre qui s'appelle « Dom Pedro Ier, roi de Castille ». Pourquoi cette histoire? Quel est son intérêt? Dom Pedro, roi de Castille, succède à son père alors qu'il a tout juste 15 ans. C'est un monarque bigame, caractériel, tyrannique, qui s'arme d'une justice épouvantable pour terrifier l'Espagne, la mettre à genoux devant lui, peu à peu abandonné par les siens, à commencer par sa mère, trahi, excommunié. Ce pauvre roi sanguinaire tombe dans la folie, dans la méfiance, dans l'obsession du complot, dans la haine du genre humain. Mérimée écrit, pourvu qu'il fût redouté, il se souciait peu de gagner l'amour des hommes qu'il méprisait. Enfin, un frère bâtard, Henri de Trastamare, jaloux de son trône, le poignarde dans une embuscade dressée avec la complicité de Du Guesclin. Dom Pedro disparaît à 35 ans. Pourquoi l'historien Mérimée choisit-il un tel sujet? En tous les cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une complaisance chez lui face à ses atrocités. Il recherche des effets de contraste. Il essaie d'imiter le style des anciens chroniqueurs. Il essaie de rendre les mœurs de l'époque. Et à travers un homme, il traverse de fait une époque. Et d'ailleurs, la fin du livre est ambiguë, puisque Mérimée justifie ce personnage épouvantable par les déterminismes du temps. Il dit que le roi était forgé par son siècle, qu'il était dur, qu'il était féroce, mais qu'il était justicier, que le peuple, au fond, était fasciné par lui. Et tout en le décrivant comme l'assassin insatiable des membres de sa famille, des dames, des prélats, comme un expert dans la torture, il voit dans Dom Pedro le reflet d'une époque elle-même horrible, le Moyen-Âge espagnol, fiévreux, violent, superstitieux, mais aussi capable de courage et épris de justice. Après 1860, Mérimée a bien perçu le côté épars de son œuvre, conteur, historien, chroniqueur, et la diversité de ses thèmes. Il essaie de se piquer donc en historien, ce qui suppose qu'il théorise son écriture. Par exemple, il se considère désormais comme le spécialiste français de l'Espagne. Chaque fois qu'un livre paraît qui concerne cette période, je pense en particulier au livre de Prescott qui s'appelle « Philippe II et Don Carlos », c'est lui qui en fait les commentaires. Dans un tout autre territoire, il essaie aussi d'élargir son espace d'investigation et se tourne notamment vers la Russie. D'où là encore un livre très étrange et un peu inattendu somme toute, un épisode de l'histoire de Russie qui s'appelle « Le faux Démétrius », paru en 1852. En fait, Mérimée, par hasard, avait lu quelque chose sur ce faux Démétrius alors qu'il était en détention à la conciergerie, condamné pour quelques jours parce qu'il avait défendu un libraire escroc, M. Libri, qui volait des livres dans les bibliothèques, mais l'amitié l'avait égaré jusqu'à le défendre longuement. Le faux Démétrius est un récit très très proche du Dom Pedro, dont je ne vous donnerai pas le récit, mais qui là aussi provoque une très bonne critique. Sainte-Beuve en fait une critique très élogieuse à la demande, il est vrai, de Mérimée. Il dit ceci: arrivé à la pleine maturité de sa vie d'historien, maître en bien des points, sachant à fond et de près les langues, les monuments, l'esprit des races, la société à tous les degrés de l'homme, il n'a plus, ce me semble, qu'un progrès à faire pour être tout entier lui-même et pour faire jouir le public des derniers fruits consommés de son talent d'historien. Mon seul vœu, c'est qu'en avançant et sûr désormais de lui et de tous, comme il est et doit l'être, il se méfie, qu'il s'abandonne parfois à l'essor et qu'il ose tout ce qu'il sent. Ainsi, Mérimée a-t-il obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire être reconnu par ses lecteurs contemporains comme un historien professionnel. L'était-il cependant ? Lui-même, au fond, lorsqu'il s'interroge, en doute. Il ne laissait pas trop paraître, mais il sentait la différence entre lui et Thierry, Guizot, Tocqueville, Michelet ou encore Mignet. Bien sûr, il sent aussi que son imagination a besoin de s'ébattre. Il est souvent lassé par les investigations historiques et qui parfois arrive au bout de son courage. Je cite une de ses nombreuses lettres, il dit « Je viens d'écrire 150 pages d'histoire, il le faut bien. Et j'ai passé 6 mois, excusez-moi mesdames et messieurs les académiciens, j'ai passé 6 mois à me fendre le cul sur des livres russes, sur le point de transvaser en prose des élucubrations d'un tas de moines. Ah, je suis saisi par le démon des romans et j'ai envie d'envoyer l'histoire à tous les diables, y compris celle de Démétrius. » Oui, Mérimée se fait historien plus qu'il ne l'est, mais il était fier, il tirait quelques vanités d'être reconnu comme historien, tout en se méfiant des chimères de l'imagination, tout en affectant de voir dans son écriture romanesque et dans ses écrits littéraires des formes dégradées ou superficielles de son talent. Mérimée, cependant, aime à souligner le poids et la densité de son œuvre historique. Voilà pourquoi il compile, voilà pourquoi il s'astreint à produire de lourds documents, chargés de notes, de références, comme s'il aspirait dire le tout de son sujet, rendre manifeste la solidité de son talent et de son travail. De notre côté, à l'inverse, et parfois d'une page à l'autre, il tourne en dérision ce qu'il écrit, il se moque du romanesque, il s'emploie à surprendre, à décevoir son lecteur. Il souligne ironiquement par des intrusions d'auteur, par des supercheries ou par des invraisemblances la distance par rapport à ce qu'il écrit. Il accumule les paradoxes, les traits d'humour, il parodie le style des fictions. Ce double jeu est particulièrement perceptible, et j'y reviens, dans la chronique du règne de Charles IX. Texte qui devrait s'apparenter à l'histoire et qui porte toutes sortes de traces du roman. On a observé par exemple que les épigraphes des chapitres de ses chroniques renvoie à Walter Scott, à Rabelais, à des chansons populaires, à Molière, comme si, d'emblée, en tête de chaque chapitre, Mérimée voulait se départir du genre sérieux, au profit de la raillerie, de la gouaille, de la bouffonnerie. De même, Mérimée se substitue parfois au narrateur pour s'adresser directement au lecteur, au milieu du chapitre. Ainsi, au milieu du chapitre 8, il commente les imprévus du destin, il ironise sur les convictions humaines. On pense en fait au Diderot de Jacques le Fataliste. Et même la conclusion reste indéterminée, appelle le lecteur à poursuivre la fiction. Je cite, « Mergy se consa-t-il? Se consola-t-il? Diane prit-elle en notre amant ?» Je laisse au lecteur à décider, qui, de la sorte, terminera l'histoire à son gré. Les personnages principaux eux-mêmes échappent aux stéréotypes historiques. Charles IX et sa mère, Catherine de Médicis, paraissent irresponsables, inaptes au moindre complot, incapables de fanatisme. Il dit, lui était indifférent en matière de religion. Elle bâille à tout moment, elle ne parle d'autre chose que du temps. Quant à la Saint-Barthélemy, nous l'avons dit plus haut, elle s'apparente à une insurrection improvisée, sanguillonnante, maladroite, que ni le roi ni l'Église ne semblent avoir vraiment préparée. On pense d'ailleurs à un conte très étonnant de Mérimée qui s'appelle « L'enlèvement de la redoute », que certains d'entre vous connaissent, qui illustre de la même façon, avec une froide ironie, sur un ton alerte et soldatesque, une insane boucherie héroïque à laquelle personne ne comprend rien. Sans doute, Mérimée veut-il se démarquer des sources habituelles et ne prend pas pour content ce qui a été dit avant lui. Je le répète, nous sommes au cœur de ce double jeu de Mérimée, de son tempérament particulier, à la fois voulant faire sérieux, savant, mais en même temps sceptique, insoumis, critique. Et surtout, voyez comme nous sommes loin du déterminisme hegelien. Mérimée voit l'histoire comme le résultat bizarre, aléatoire, de jeux individuels, de trajectoires, d'énergies privées qui se croisent, qui s'entrechoquent. Ce sont les caractères humains, qualités et défauts qui font l'histoire, motivés par des intérêts ridicules, par des passions passagères, par un vouloir vivre déstabilisant. En cela, Mérimée s'inscrit dans la tradition de Salluste ou des moralistes, aux yeux de qui la virtus des acteurs est la clé des événements. Mérimée relativise donc l'idée d'un sens de l'histoire, et j'y vois l'explication de son intérêt pour les époques et pour les situations où les forces vitales s'expriment sans retenue et brutalement, d'où Dompèdre ou le faune Démétrius. Cette impulsion violente, Mérimée l'a retrouvée aussi, il est vrai, chez César, comme il l'a retrouvée chez Catilina et dans tant d'autres. Par parallélisme, observant que le conteur retrouve la même absurdité dans des textes, je citais l'enlèvement de la redoute, mais il peint les mêmes ardeurs destructrices dans Carmen, dans Colomba, ou dans l'histoire du petit Matteo Falcone, fusillé par son propre père. Bref, chez presque tous ces héros qui sont sombres, tourmentés. Et j'ai souvent vu Mérimée comme un annonciateur de Maupassant. Dans une lettre à Réquillien du 30 novembre 1839, il avoue qu'il voit dans la férocité, je cite, « la pure nature de l'homme ». Et il est vrai que son dernier conte, Lochis, qui est l'histoire d'un homme ours, illustre jusqu'à l'absurde et au vertigineux cette certitude que ce qui fait l'homme est sa férocité, au sens latin. J'en terminerai en disant que, chez Mérimée, l'amour de l'histoire a été aussi un moyen, sans doute, d'épouser une énergie ou d'atteindre des transgressions que sa propre vie lui refusait. Mérimée était souvent sur son compte à soi, sérieux, guindé, antipathique, souvent l'on dit, ceux qui le connaissaient. Mais il trouvait dans l'histoire le vertige du temps, des sensations, des sensualités. Et sa personne revêche, mal aimée, pouvait échapper ainsi à la raideur ou à la platitude que lui reprochait Hugo. Vous savez, Hugo disait « le paysage était plat comme Mérimée », au point qu'il douta parfois de son propre talent. Les écrivains de son temps l'ont jugé sec, conservateur, inféodé à l'Empire. Ils l'ont presque mis à l'index. Il fallait donc qu'il cherche ailleurs des affinités littéraires ou intellectuelles. En marge de la création de son temps, qu'il n'aimait pas beaucoup, Mérimée s'est réfugié dans l'espace et dans le temps en restant friand d'ouvrages historiques, comme l'immense histoire du consulat de l'Empire que Thiers a rédigée en 15 années studieuses et que Mérimée considérait comme un chef-d'œuvre. Vous dites quelque part que la vérité est que c'est ce qu'il y a de plus beau. Cela est bien vrai, dit-il à Thiers. En vous attachant à être un historien fidèle, vous avez été un poète et un peintre. La bataille de la Moscova, la retraite, le passage de la Bérézina sont des tableaux qui transportent. Pour moi, j'en suis malade. Personne n'avait compris jusqu'alors les mouvements de Napoléon et ceux des Russes, la bataille de Smolensk, celle de la Moscova. Et Mérimée le félicite encore d'avoir eu recours aux documents du prince de Metternich relatifs à l'armistice après la bataille des Nations. Il revit Waterloo. Je lis le 17e volume de M. Thiers. Il me fait mal à l'estomac, raconte-t-il à Mme Jacquelin. Il est poétique à force d'être simple et vrai. Êtes-vous de ces cœurs français qui souffrent à la perte de la bataille de Poitiers? Moi, j'en suis. A contrario, les amours de Mérimée paraissent, en matière littéraire et historique, bizarres et incongrues. Sa passion pour l'histoire a gardé quelque chose de son caractère enfantin, comme s'il se méfiait des fortes têtes de son temps. Il est rare, et même très rare, qu'il ait perçu parmi ses contemporains le vrai génie. Il manifeste un intérêt déplacé pour Émile Augier, auteur dramatique de comédie sociale qui exalte la morale bourgeoise. Il a pour lui de l'admiration, de l'amitié, ils s'écrivent. Mérimée vend dans chacune des pièces d'Émile Augier une bonne pièce et un acte de courage. Il défend avec vigueur une pièce qui s'appelle « Le fils du giboyer ». « Il faudrait être vrai avant tout », lui écrit-il. Mérimée loue aussi le romancier Edmond Abou et considère avec faveur le moralisme sentimental de George Sand. Il compare Ponsard à Corneille. Et malgré la complicité intellectuelle qui le lie à Sainte-Beuve, Mérimée ne témoigne jamais de l'éclectisme et de la perspicacité propre à l'auteur des causeries du lundi. De son propre aveu, c'est qu'il aurait voulu fréquenter Duclos, Chamfort, Rivarol, l'élite intellectuelle du XVIIIe siècle. Au lieu de cela, il lui fallait composer avec les salons bourgeois et avec Napoléon III. Aux faiseurs, aux cuistres et aux courtisans de Napoléon III, il aurait préféré les chants originels et traditionnels. Il s'en explique avec des accents virgiliens. Heureux les poètes d'aujourd'hui, ignorant des règles et des conventions inventées par les rhéteurs. Plus heureux encore les poètes pour qui le chant de la nature s'est allé dans son immensité, vierge encore de toute moisson. Nous autres, venus tard, nous nous baissons pour découvrir quelques épis oubliés par ces hommes des premiers âges qui fauchaient sans peine les gerbes épaisses. Ce passéisme a son revers. Mérimée renie Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu au nom du style, assurant qu'à Lee Child, que depuis Rabelais, le français n'a fait que déchoir, tout homme la langue anglaise qui ne cesse de tomber depuis Shakespeare à ses yeux. À l'aune des anciens, tout lui paraît dérisoire, même les grands courants de son siècle, le romantisme, le réalisme, qu'il traite de déformation sans mesure. L'un déborde de sentimentalisme, l'autre couronne la laideur, la maladie de son temps. Et même, ses passions de jeunesse finissent par être dénoncées. À Madame de Roche-Jacquelin, qui s'enthousiasme pour Walter Scott, Mérimée réplique, je l'ai beaucoup aimé, maintenant je ne puis le relire, il y a des rebâchages qui m'excèdent, c'est un petit esprit et une nature basse. C'est à peine si Cervantes lui apporte encore du plaisir. Je relis Don Quichotte, écrit-il à Turgenev, le 11 septembre 1869. Il y a beaucoup trop de coups de bâton, les épisodes sont trop longs et trop brusquement intercalés. Sans doute faut-il relativiser ces partis pris qui sont aussi ceux des vieux bourgeois de son époque. Par exemple, Mérimée est tout à fait dans l'air du temps, si j'ose dire, quand il voit comme un signe de décadence les dissonances de Wagner. Il écrit à Jeanne d'Aquin. Le dernier ennui, mais colossal, fut Tannhauser. Les uns disent que la représentation de Paris a été une des conventions secrètes du traité de Villafranca, d'autres qu'on nous a envoyé Wagner pour nous forcer d'admirer Berlioz. Le fait est que c'était prodigieux. Il me semble que je pourrais écrire demain quelque chose de semblable en m'inspirant de mon chat sur le clavier du piano. Et il dit, avez-vous lu Tannhauser? Il n'y a que les Allemands pour l'audace dans la bêtise, je hais cet affreux peuple qui a plus de vanité que les Gascons et qui manque avec plus d'aplomb. Il se permet même ce jet de mots, Tannhauser, on s'y Tannhauser. Bref, l'âge et le conformisme ont effacé l'espièglerie et les outrances de l'époque où le jeune Mérimée, masqué, bousculait la mode littéraire. Et finalement, l'amour de l'étranger lointain, donc de l'histoire, finit par se mêler aigrement de détestation et laisse voir chez Mérimée vieillissant une misanthropie de proximité. L'historiophilie de Mérimée fut une de ses manières de refuser la bêtise de son temps. Il aurait dû pactiser avec Flaubert, qu'il n'aimait guère, s'il avait su le comprendre. Je vous remercie.
C'était Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie auprès du ministre des Affaires étrangères. Xavier Darcos invité à s'exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 17 janvier 2005. Communication intitulée « Mérimée historien ». Faut-il faire confiance aux historiens, c'est le thème principal de travail de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2005. Tous les lundis, une communication en séance publique. Évidemment, vous pouvez assister à ces communications, mais aussi retrouver l'intégralité des textes sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr.